Seigneur, je te demande aussi de nous préparer maintenant pour la prédication. Merci d'avoir préparé Jean-Jacques pour ce qu'il a à nous dire de ta part. Merci de l'avoir donné ce cadeau de l'enseignement. Vraiment que tu puisses nous bénir à travers ces paroles. Alors Jean-Jacques, je te demande de venir.
Merci. Bonjour. Avant d'entrer dans une salle d'opération, on a toujours un petit peu peur. Et l'anesthésiste est là pour nous rassurer et il nous dit: courage, ça va bien se passer. Aujourd'hui, j'aimerais faire de la théologie avec vous. Courage, ça va bien se passer. Parce que finalement, la théologie, ça veut dire connaître Dieu. Et on a tous envie de connaître Dieu. Donc quelque part, on est tous des théologiens et on se réjouit tous de cette opération que le Saint-Esprit va faire dans nos cœurs aujourd'hui. Amen. Voilà, c'était mon petite introduction. Je vais arriver à la conclusion. C'est vrai que pendant une opération, on ne voit rien, on n'entend rien, on dort finalement. Puis quand tout est fait, on se réveille. Non. J'aimerais vous dire que les choses importantes sont parfois invisibles. Prenez par exemple la croix qui est derrière moi. Ah, il y a une croix. Oui, il y a une croix. Elle est sobre, élancée. Et personnellement, moi, je la trouve très belle. J'aime beaucoup ces petits morceaux de métal qui montent encore vers le ciel pour dire qu'il y a une continuité, ou qui partent vers l'extérieur pour dire que finalement, mon prochain élément humain, ben, je continue aussi à m'en occuper. Et je la trouve vraiment très belle. Je pourrais vous en parler parce que j'ai déjà regardé plusieurs fois. Puis je pourrais même prêcher une fois sur cette croix. C'est Philippe Mathey qui l'a fabriquée. Bravo. Moi, j'aime bien, c'est vraiment une œuvre d'art. Alors, elle n'a pas d'éclairage spécial, comme vous pouvez vous en rendre compte, ni de mise en scène particulière. Et elle fait partie du décor, elle est presque invisible. Et pourtant, c'est elle qui fait dire aux personnes présentes dans ce lieu que ce lieu, c'est un lieu de culte, et que c'est un lieu de culte chrétien. Donc ne retirons pas les croix de nos églises. Parce que les croix ont été retirées de plusieurs espaces publics, mais on les trouve encore au carrefour des chemins des campagnes, au sommet des montagnes, dans les églises, et bien sûr, dans les cimetières. La croix est devenue un symbole, c'est un symbole des chrétiens. On la trouve sous forme de bijoux, que ce soit en boucle d'oreille ou en collier, ou au travers de tatouages. Et là, on laisse au tatoueur le soin de pouvoir décliner la croix de multiples façons, aussi ésotérique qu'elle puisse être. Si la croix, c'est un symbole, elle est devenue de plus en plus le symbole d'une sorte de spiritualité plus ou moins engagée, mais qui s'est éloignée de la vérité. Et plus qu'un symbole, la croix, c'est la réalité de la victoire de Jésus-Christ sur la mort, sur le péché, sur la maladie. La croix, elle se trouve aussi dans le Nouveau Testament, non pas comme un symbole, mais comme un moyen terrible de mettre à mort les criminels. La crucifixion était réservée aux esclaves, aux étrangers libres et aux rebelles. Par contre, les citoyens, eux, avaient l'honneur, s'ils étaient reconnu coupable, d'être décapité. C'est clair, c'est plus rapide, c'est aussi plus net. Le condamné crucifié, souvent nu, était cloué sur une croix publiquement, après avoir été souvent fouetté avec des lanières de cuir reliées avec des petits morceaux de fer acéré pour bien endommager la peau du futur crucifié. C'était un supplice qui conduisait inexorablement à la mort et qui pouvait mettre quand même quelques jours à venir, cette mort. Et pour réduire l'agonie des condamnés, on leur brisait les jambes pour les empêcher de prendre appui sur leurs pieds et leur permettre de mourir étouffés plus rapidement. La croix ne se trouve pas seulement dans l'Ancien Testament, mais au cœur de l'Évangile, puisque Jésus lui-même a été crucifié. Comme Israël était sous occupation romaine, ses habitants n'avaient pas tous les pouvoirs. Il y avait bien sûr des chefs religieux qui pouvaient rendre justice selon les pratiques juives, mais on ne pouvait pas condamner à mort un juif par d'autres juifs. Pour cela, il fallait en référer à l'autorité romaine mise en place, qui avait seul le pouvoir de juger si une telle personne pouvait être condamnée à mort ou non. C'est la raison pour laquelle Jésus a été emmené auprès d'Hérode et de Pilate, c'est les plus hautes autorités romaines de la région. Je ne sais pas si ça fonctionne, Raphaël, les slides. Oui, parfait. On trouve dans les évangiles, dans les quatre évangiles, l'épisode de la crucifixion et son procès, qui était, comme vous le savez, un véritable simulacre. Alors, je vais lire un verset dans chaque évangile pour vraiment vous rendre compte que c'est vrai. On retrouve cette histoire de la crucifixion dans chaque évangile et puis voir un petit peu comment les Juifs ont amené, finalement, les autorités romaines à faire ce qu'ils désiraient. On trouve la première référence dans Marc, chapitre 15 et le verset 10. Pilate s'était rendu compte, en effet, que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Puis ensuite, dans Luc, le verset 23, chapitre 23, trois versets. « Mais enfin, leur demanda-t-il pour la troisième fois, qu'a-t-il fait de mal? Je n'ai trouvé en lui aucune raison de le condamner à mort. Mais ils devinrent de plus en plus pressants et exigèrent à grands cris sa crucifixion, finalement leurs cris l'emportèrent. Pilate décida alors de satisfaire à leur demande. Après, et c'est intéressant ça, hein. Donc on se rend compte que finalement Pilate, il était dans le compromis. Et puis le chapitre 27 de Matthieu, le verset 35, nous dira « Après l'avoir cloué sur la croix, les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. » Et enfin, dans l'évangile de Luc, verset 19 du chapitre 19, Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Voilà, et je vous encourage à relire dans les quatre évangiles cet épisode de la Passion. Pilate, en crucifiant Jésus, savait qu'il crucifiait un innocent. Il le savait. Il risquait son poste si la justice qu'il rendait n'était pas conforme au droit romain. C'est la raison pour laquelle il a fait placer au-dessus de Jésus crucifié cette pancarte où il était écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». En effet, selon le droit romain, le crime contre la sécurité de l'Empire et même une rébellion contre l'autorité de l'empereur était condamné à mort par crucifixion. Fin stratège, Pilate a donc fait plaisir aux Juifs en crucifiant Jésus, mais aussi sauvé sa tête en invoquant publiquement ce motif précis de ce qu'il voulait être contre César, contre le roi, contre l'autorité romaine. Mais au-delà de ces réalités stratégiques, quel plus beau témoignage que de proclamer publiquement la royauté de Jésus sur le peuple juif et de là sur tous les peuples de la terre. Jésus est vraiment le roi. Jésus est vraiment notre roi. Et dans tout le Nouveau Testament, la croix, symbole de malédiction pour les Juifs, est l'élément central du message de l'Évangile. Alors, la passion de Jésus, vous savez, ce temps où il entre dans Jérusalem, où il va être jugé, où il va être mis à mort, où il va ressusciter, la passion, occupe environ le 25% de tous les versets des quatre évangiles. Donc on se rend compte que c'est énorme. Ça fait de cet événement le cœur de l'évangile. bien avant le baptême d'eau, bien avant le baptême dans le Saint-Esprit, bien avant Noël ou l'Ascension, c'est la croix qui est annoncée et prêchée par les premiers chrétiens. Et on le lit, par exemple, j'aurais pu prendre beaucoup de versets, mais j'ai pris en Corinthiens 1, le chapitre 1er, le verset 22 à 25, où Paul dit ceci, « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Le message de la croix est le centre de la bonne nouvelle de Jésus quand nous évangélisons. Mais dans les fêtes, vraiment dans les fêtes, comment est-ce que nous faisons quand nous annonçons l'évangile à quelqu'un? Alors, on pourrait dire que la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du pardon de Dieu pour nos péchés. Oui. Mais le message de l'évangile, ce n'est pas le pardon des péchés. Courage, ça va bien se passer. Sinon, le baptême de Jean-Baptiste, qui est un baptême de repentance, aurait largement suffi à nous faire entrer dans le paradis de Dieu, et Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir sur la croix. Alors on se dit, alors moi, quand j'évangélise, je vais apporter aux gens le fait qu'ils arrêtent de pécher, puis qu'ils fassent le bien, qu'ils changent leur comportement, qu'ils ne mentent plus, qu'ils ne volent plus, qu'ils ne trompent plus, qu'ils ne soient plus jaloux. Un petit peu, parfois, comment les parents font avec leur enfant. Ils ne veulent pas qu'ils fassent le mal et ils leur demandent de faire le bien. Finalement, de suivre un code de morale élevé, juste comme les 10 commandements. Mais le message de l'Évangile, ce n'est pas de renoncer au mal, ni d'obéir aux commandements divins, à ces 10 commandements. Sinon, la loi juive de l'Ancien Testament aurait amplement suffi à nous faire entrer dans le paradis et Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir sur la croix. Alors on se dit, dans son mode de peace and love, la bonne nouvelle de la paix, soyez en paix avec tous les hommes, aimons-nous les uns les autres. Et, oui, il est bien de nous aimer. Mais le message de l'Évangile, ce n'est pas non plus d'être en paix avec tout le monde et d'aimer chaque personne sur cette terre. Sinon, l'attitude bienveillante envers son prochain que vous avez suffirait à vous faire entrer dans le paradis et Jésus n'aurait non plus pas eu besoin de mourir sous la croix. Mais finalement, c'est quoi la bonne nouvelle de l'Évangile ? Eh bien, mes amis, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la croix. C'est la croix. Paul disait, moi, je prêche Christ et Christ crucifié. Alors, entrons dans l'opération à proprement dite, et courage, ça va bien se passer. Faisons un petit peu de théologie. Jésus, par sa mort sur la croix, est venu nous réconcilier avec le Père. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus, par sa mort sur la croix, est venu mourir à notre place pour nos péchés. Jésus, à la mort sur la croix, a porté notre condamnation. Jésus, par sa mort sur la croix, nous a affranchis du péché. Jésus, par sa mort sur la croix, a vaincu le péché. Jésus, par sa mort sur la croix, nous apporte le salut. Jésus, par sa mort sur la croix, a porté nos maladies. Jésus, par sa mort sur la croix, a vaincu le diable. Jésus, par sa mort sur la croix, nous permet d'être plus que vainqueur. Amen. On est d'accord de le redire ? On va le faire à la mode espagnole. C'est pour ça que je l'ai remis. On va le redire, puis on va tous le lire ensemble. J'ai bien aimé comment les Espagnols y font pour que les pasteurs, ils ont bien compris que pour répéter à haute voix les choses, les gens vont le retenir mieux. Alors, allons-y. Jésus, par sa mort sur la croix, est venu nous réconcilier avec Dieu le Père. Jésus, par sa mort sur la croix, est venu mourir à notre place pour nos péchés. Jésus, par sa mort sur la croix, a porté notre condamnation. Jésus, par sa mort sur la croix, nous a affranchis du péché. Jésus, par sa mort sur la croix, a vaincu le péché. Jésus, par sa mort sur la croix, nous apporte le salut. Jésus, par sa mort sur la croix, a porté nos maladies. Jésus, par sa mort sur la croix, a vaincu le diable. Jésus, par sa mort sur la croix, nous permet d'être plus que vainqueurs. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Vous venez de faire de la théologie. Ça s'est bien passé. Et après cela, oui, après cela, la croix voit aussi englober le pardon vers son prochain, l'obéissance au commandement et la paix avec tout le monde. Mais le centre de l'évangile, c'est la croix. Alors si moi j'annonce l'évangile, je vais prêcher le Christ et je vais prêcher le Christ crucifié. Et c'est vraiment cette réalité que Paul veut expliquer et enseigner aux chrétiens de Corinthe. Et on va relire ce texte de base qui est de 1 Corinthiens 1, les versets 22 à 24, qui nous dit ceci. « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » L'apôtre nomme ici deux principaux parties du monde incrédule, les juifs d'une part et d'autre part les grecs. Les juifs d'abord. Les juifs demandent des signes, nous dit Paul. Il est bien placé pour le savoir, puisque lui c'était un juif qui était assez zélé. Ils demandent des signes, des miracles, ils veulent voir pour croire. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. On trouvera donc, en plus, après ces paroles, les mêmes paroles qui sont encore redites dans le même évangile de Marc, au verset, chapitre 15, verset 32, « Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyons. » Et du temps du ministère de Jésus, les Juifs suivaient Jésus, non pas parce qu'il était le Seigneur et le Messie, mais parce qu'il les guérissait et parce qu'il les nourrissait. Et quand il a voulu faire un peu de théologie, relisez Jean 6, 66, les gens ont commencé à partir, à abandonner Jésus parce que ce n'était trop pour eux. Il n'était plus le centre de leur propre vie. Et puis en Jean 6, versets 29 à 30, Jésus parle justement aux Juifs et il leur dit « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Donc Jésus veut mettre en avant la foi. Et puis les Juifs répondent « Quel miracle fais-tu donc afin que nous le voyions et que nous te croyons ? Quelle œuvre fais-tu ? » Les Juifs ne voulaient pas entrer dans cette dimension de foi. Il voulait entrer dans cette dimension d'émotion, de voir les choses. Pour eux, tout devait être visible, terrestre, matériel, afin qu'ils puissent croire. Et même quand Jésus faisait des miracles devant eux, ils persistaient à ne pas croire et à vouloir faire mourir Jésus. Quant aux Grecs, eux recherchaient la sagesse par une certaine spéculation philosophique. Et contrairement aux Juifs, ils mettaient en avant leur raisonnement, leur réflexion basée sur des faits qui étaient démontrables. Ils recherchaient Dieu par leur propre force au travers de leur esprit cartésien. Et Paul va disqualifier ces deux modes de pensée en proclamant que l'évangile ne peut pas être reçu ni par les émotions des Juifs, ni par les raisonnements des Grecs, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ crucifié. Et c'est un message qui semble impossible à prêcher. Car Paul continue en disant que le message de la croix, c'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les Romains. Donc les pauvres, ce n'est pas un message facile. Vous n'avez pas un message facile à apporter. Folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs. Scandale pour les Juifs. Comment un Juif saint d'esprit pouvait-il adorer comme Dieu un homme qui venait d'être condamné à mort comme criminel et de connaître la forme d'exécution la plus infamante qu'est la crucifixion? Deutéronome 21-23 dit « Celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction auprès de Dieu. » Mais jamais Jésus ne pourra être le Messie attendu dans ces conditions. C'est un scandale, une abomination de voir en lui un envoyé de Dieu et pire encore, de vouloir l'adorer. C'est pourquoi nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres une véritable guerre orchestrée par les Juifs pour anéantir les chrétiens. Folie pour les Grecs. Pour les Grecs, qu'un homme puisse mourir en portant les péchés des hommes ressemblait à une fable, une histoire qu'on raconte aux enfants pour les faire endormir. De plus, imaginez la rédemption qui passe par un malfaiteur crucifié. Mais c'est une imagination extrême et complètement stupide. Enfin, que Jésus soit ressuscité, c'est de la pure folie. Donc Paul, dans le monde juif et grec, avait de la difficulté, parce qu'il ne partait pas gagnant avec un tel message. Et ces réalités font que la réception de ce message, autant chez les Grecs que chez les Juifs, va être compliquée. Et puis on pourrait vite se décourager. « Ah non, je préfère mourir en paix, je ne veux pas cette opération qui risquerait de m'abîmer ou je risquerais de ne pas me réveiller de l'opération. Je ne préfère ne pas être opéré au risque d'aller mieux. » Et c'est peut-être ce qu'on dirait en disant, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Annoncer Christ crucifié, je vais droit contre le mur. Donc mieux vaut prêcher autre chose que Christ crucifié. L'amour, la paix, la joie. Ça, c'est plus facile. Les gens vont mieux m'accepter. Mais prêcher Christ crucifié, c'est presque une mise à mort. C'est presque un suicide. Et l'idée d'adorer une personne crucifiée était donc une abomination pour les Juifs et quelque chose de ridicule pour les Grecs. Les Juifs détestaient l'Évangile, les Grecs le méprisaient. Mais cela n'a pas empêché les premiers chrétiens de quand même proclamer Christ crucifié aux Juifs et aux Grecs. Et cela ne doit pas non plus nous empêcher, nous, chrétiens du XXIe siècle, à prêcher Christ et Christ crucifié aux gens qui nous entourent et que nous connaissons. Et la preuve, c'est qu'au verset 24 de ce même chapitre 1er de 1 Corinthiens, Paul mentionne des disciples de Jésus, justement des Juifs et des Grecs, qui ont répondu à la prédication de la croix, parce que Christ crucifié, c'est la puissance de Dieu pour renverser les forteresses des cœurs et des partis pris intellectuels. et ça apporte le salut à celui qui lui demande. Si vous voulez annoncer l'évangile, annoncez-le, annonçons-le, comme la Bible nous le propose, annonçons Christ crucifié. Et si l'Église primitive a connu un tel essor, et soyons honnêtes, on est un petit peu jaloux de lire dans le livre des Actes des Apôtres tous ces miracles, toute cette croissance de l'Église, 3000, 5000 et des milliers, des millions, on se dit waouh, et à Yverdon. Donc si l'Église primitive a connu un tel essor, c'est que les chrétiens ont pris au sérieux ce que Paul et les autres apôtres enseignaient. Nous ne prêchons qu'une seule chose, c'est Christ et Christ crucifié. Le centre de notre prédication, c'est la croix. Alors que nous partageons notre foi à des personnes qui ne connaissent pas Jésus dans notre vie au quotidien, et je suis certain que nous le faisons avec amour et avec sagesse, osons aussi prêcher Christ crucifié. Et comme les disciples des premiers temps, attendons-nous à avoir des résultats. En effet, Romains 1, 16 dit cela, et ça sera ma conclusion, car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Prions. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Par elle, nous revenons à la croix. Dans notre vie personnelle, dans l'Église, dans notre façon d'apporter l'Évangile aux autres. Et nous voulons non seulement être sensibles à cette parole, Seigneur, mais souscrire pleinement en te disant « Oui, Jésus, je veux entrer dans des choses qui me paraissent difficiles, mais qui portent du fruit. » Et ensemble, en Église, et aussi d'une façon individuelle, nous voulons te dire, Seigneur, que c'est à la croix que nous sommes venus pour nous convertir, pour déposer nos péchés, pour repartir libérés. C'est à la croix que nous voulons revenir chaque jour. C'est à la croix que nous voulons accompagner nos amis, membres de notre famille ou compagnons de voyage. Et c'est la croix qui nous fait vibrer et que nous voulons remettre au centre de notre vie, dans ce que nous pensons, dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. Parce que comme Paul, nous désirons prêcher Christ et Christ crucifié. Amen. Voilà, monsieur, madame. Vous êtes en salle de réveil. L'opération s'est bien passée. Courage. C'est à vous maintenant à faire de la rééducation et à obéir aux ordres du docteur.